Excellent, bonsoir. Avant de procéder à l'appel, une petite pensée pour soutenir le peuple ukrainien dans cette guerre faisant des victimes innocentes. Monsieur Ayoza Fabrice.
Présent.
Madame Amaya Irios Estelle.
Présent.
Madame Bonifaci Sylvie.
Présent.
Monsieur Bou Philippe.
Présent.
Madame Caligari. Monsieur Carpatrois Henri, absent, donné pouvoir à Madame Alexandrine Fraisse. Madame Contessoto Sophie.
Présent.
Monsieur Defès Jean-Marc, pouvoir à Madame Aline Soliac. Moi-même. Madame Fraisse Alexandrine.
Présent.
Monsieur Grappin Jean-Louis, absent, pouvoir à Madame Amaya Herrios. Monsieur Garino Jean-Marc.
Présent.
Madame Amère Laurence. Madame Hermitan Tamara.
Présent.
Madame Carmoite Isabelle, absente, a donné pouvoir à Madame Césarine Sauvador. Monsieur Lambertin Jean-Pierre.
Présent.
Monsieur Miserere Gérard.
Présent.
Monsieur Morel Stéphane.
Présent.
Monsieur Paré Franck. Absent, a donné pouvoir à Madame Sylvie Bonifaci. Monsieur Robin Christophe, absent, a donné pouvoir à Monsieur Gérard Miserere. Monsieur Sardou Nicolas. Madame Sauvane Sandrine, absente, a donné pouvoir à Madame Sophie Contessoto. Madame Sauvador Césarine.
Présente.
Madame Bati Samira.
Présente.
Madame Soléac Aline. Absente. Madame Souveton Anne-Marie.
Présente.
Et Madame Sandrini Mercedes aura un échauffement. Élection du secrétaire de séance. Je propose M. Fabrice Ayoza. Qui est contre ? Qui s'abstient ?
Juste une question, vous pouvez me dire combien il y a le quorum sur les séances ?
14.
Si vous en savez, vous avez le quorum ?
D'accord,
oui. Oui, tout le monde. Vous avez 17.
Non, c'était juste une question, je ne savais pas le nombre du quorum.
Vous avez 17.
Donc, je reprends. Élection du secrétaire de séance. Je propose M. Fabrice Ayoza. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Deuxième question, approbation du procès verbal de la séance du 19 janvier 2022. Y a-t-il des questions, des observations ?
Aucune.
Je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Troisième question, débat d'orientation budgétaire 2022 sur la commune de Lapalu. Monsieur Jean-Marc Garinos.
Merci.
Donc, merci, monsieur le maire. Donc, le débat d'orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il participe à l'information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes, en facilitant les discussions sur les priorités des évolutions de la situation financière d'une collectivité préalablement au vote du budget primitif. Donc, dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Alors, bien sûr, dans le document qui vous a été envoyé, il y a toute une partie introductive sur la situation économique et sociale internationale, européenne, et on en arrive à un peu plus à la situation nationale. Alors, je vais juste parler d'une des mesures spécifiques aux collectivités territoriales de la loi de finances 2022, la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales. Donc, le projet de loi de finances 2022 vient confirmer le calendrier acté en 2018. Pour rappel, une réforme a été engagée pour supprimer la taxe d'habitation portant sur les résidences principales. Depuis 2020, 80% des ménages les plus modestes qui s'en acquittaient n'en sont plus redevables. Il reste donc les 20% plus aisés. En 2021, ils ont bénéficié d'un dégrèvement de 30%. En 2022, ils auront droit à un dégrèvement de 65%, Le coût de cette mesure est estimé à 2,9 milliards en 2022. L'impôt local sera définitivement supprimé en 2023. Ensuite, il y a la revalorisation forfaitaire des bases. 3,4%, c'est le taux de revalorisation forfaitaire en 2022 des bases, des terrains, locaux industriels et d'habitation. Donc, le taux de 3,4% ne concerne pas les locaux professionnels auxquels s'applique une revalorisation spécifique basée sur les loyers, dont le taux moyen national d'évolution n'est pas encore communiqué en 2022. Donc, ce taux était égal à 0,2% en moyenne entre 2019 et 2021. Donc, ça, c'est juste une petite intro. Et maintenant, on va passer, si vous le voulez bien, au compte administratif 2021. Donc, effectivement, on vous a indiqué qu'il était provisoire. Entre-temps, il a été arrêté définitivement. C'est bien sûr les chiffres définitifs qui vous sont présentés là. Donc, le CA 2021, donc, en recettes pardon, de fonctionnement, s'élève à 3 176 661,22 €. Donc, on a plus de recettes que ce qu'on avait prévu au budget. Vous savez qu'on est toujours prudent quand on prépare le budget et on préfère être en dessous en recettes que de prévoir trop et de ne pas l'avoir. Donc, dans ces 3 176 000, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a un excellent fonctionnement reporté, donc de l'année dernière, qui est de 519 000 euros. Donc, ça, c'est important. On va en reparler tout à l'heure. En ce qui concerne les dépenses, on a un total de dépenses au CA de 2 644 744,57. En fait, quand on fait la différence entre les recettes de l'année 2021 et les recettes et les dépenses de l'année 2021, sans l'excédent reporté de 520 000 dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'excédent réel de l'année est de 12 441 euros. Vous voyez qu'on ne dégage pas grand-chose sur l'année. Je vous expliquerai après qu'en plus, il faudra parler d'une DSC que nous recevons de l'Interco et que nous avons reçue en 2021 et qui fait que sans la DSC, on est déficitaire. Voilà. Mais bon, ça, on en a parlé beaucoup déjà l'année dernière. Donc, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc on va passer à la section d'investissement. En investissement, on est en recette à 629 513,18 € et en dépense à 455 795,75 €. Donc, on a un résultat positif de 173 717,43 €. C'est une section d'investissement modeste, hein, mais on sait qu'on n'a pas trop de moyens, donc on est obligé de rester assez modeste au niveau des investissements. Voilà. Maintenant, on va parler des recettes réelles de fonctionnement. Donc, les recettes réelles de fonctionnement connaissent une nette augmentation au cours de l'année 2021. D'environ 259 000 euros par rapport au réalisé de 2020. Alors, cette hausse est due notamment à la dotation de solidarité communautaire de plus de 240 474 euros par rapport à 2020. Donc, en fait, on a eu 394 000 euros en 2021, alors qu'en 2020, on a eu à peine 154 000 euros. Donc, en fait, la DSC a été très importante pour l'année 2021. Ensuite, on voit l'évolution des recettes réelles de fonctionnement entre 2012 et 2021. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, on a une évolution, par exemple, de 2021 à 2020, de plus de 259 000 euros. Mais effectivement, donc, comme je vous l'ai dit, c'est principalement dû à la DSC. Donc, sans la DSC, on n'en serait pas là. Ensuite, vous avez un certain nombre d'informations précises sur chaque article budgétaire. Donc, je vais passer là-dessus. Hein. C'est un petit peu... C'est des détails hein, qu'on vous a donnés. Donc, ça, c'est bien que vous les ayez. Ensuite, on peut juste dire au niveau des impôts et taxes que le nouveau taux de référence 2021 de la taxe foncière pour la commune de La Palue s'élève à 29,57%. Donc, soit un taux communal de 2020 de 14,44% et le taux départemental de 2020 de 15,13%. Vous vous rappelez que, quand on nous a supprimé la taxe d'habitation, on nous a ajouté le taux départemental, ce que le département touchait en TH. C'est maintenant la commune qui le touche. Donc, pour les gens, c'est transparent, ils payent la même chose. Mais en fait, c'est nous qui percevons maintenant ce taux-là. Ça veut dire qu'on n'a pas plus ni moins qu'avant. Hein. Mais bon, voilà, c'est une compensation. Ensuite, en ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, donc là, on peut quand même constater que par rapport à l'année 2020, on a une légère baisse hein, de 104 000 euros. Donc sur 2 500 000 euros, c'est quand même moins 4%, donc c'est quand même intéressant. C'est ce que nous étions engagés à faire, c'est de commencer à bien maîtriser nos dépenses, en sachant que les dépenses les plus lourdes étant celles des charges salariales, celles-ci, à part quand les gens partent à la retraite, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on n'a que des titulaires à quasi 90% du personnel. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Et je pense qu'en fin de mandat, on aura un ou deux départs à la retraite conséquents en termes financiers, bien sûr. Mais pour l'instant, on n'en a pas beaucoup. Hein. Voilà. Alors, comme on parle des charges de personnel, donc le budget prévoyait à ce chapitre 1 393 000 euros. En fait, on a dépensé 1 321 000. Le chapitre est en augmentation d'environ 25 100 euros par rapport à 2020, soit une augmentation de 1,93%. Donc, ce n'est pas beaucoup. Hein. Et les explications sont liées à plusieurs variables. D'abord, l'évolution des échelons et des avancements en cours d'année. Donc, c'est le glissement vieillesse-technicité. C'est normal, hein, c'est des fonctionnaires. Donc, quand ils avancent dans leur carrière, à un moment donné, ils passent d'un échelon à un échelon supérieur. Donc, il est tout à fait normal que l'augmentation soit imputée. Ensuite, il y a la revalorisation des grilles indiciaires. Il y en a eu pour les catégories C particulièrement. Les heures supplémentaires dans le cadre des élections municipales et des manifestations annuelles. Ensuite, le retour d'un agent en 2021 en plein traitement qui était en position d'absence en 2020, qui était en demi-traitement. La mise à disposition d'un agent communal de la Mouette pour les encombrants, donc c'est fait 11 fois par an. Et les remplacements des personnes placées en ASA, autorisation spéciale d'absence, notamment liées à la COVID-19 dans le service enfance et jeunesse. Voilà. Donc ensuite, on peut constater que les dépenses et les recettes réelles de fonctionnement évoluent de 2012 à 2017. Donc la baisse des dépenses de 2018 est principalement liée au transfert de plusieurs compétences. Donc c'est la page 17. Collecte et traitement des ordures ménagères. Construction, entretien et fonctionnement des équipements des écoles publiques. Construction, entretien et fonctionnement des équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire. Et la création, l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt communautaire. Donc la baisse des recettes en 2020 est liée notamment à la baisse de la DSC versée par la communauté de communes. Cette dotation est passée de 621 535 en 2019 à 153 000 en 2020. Soit une baisse de 467 000 euros. Il est important de rappeler que la DSC est une aide facultative apportée par l'intercommunalité. Donc, effectivement, elle peut verser, mais elle peut aussi ne pas verser. Donc, pour prévenir l'impasse financière dans laquelle nous trouvons notre commune, il n'aurait pas fallu en tenir compte dans l'équilibre budgétaire. Donc, ça, le maire l'avait très bien dit lors d'une précédente réunion, en disant qu'à un moment donné, il aurait garder cet argent plutôt pour l'investissement que pour le fonctionnement, parce que là, on a augmenté nos charges et malheureusement, on n'a plus les recettes en face. Voilà. Donc, en effet, ça a engendré une augmentation des dépenses de gestion courante et de personnel et ainsi fragilisé les finances communales. Il est clair que nous avons vécu au-dessus de nos moyens pendant quelques années et que nous sommes malheureusement contraints de rétablir la situation, ce que nous faisons depuis le début de ce mandat. Donc, de plus, un emprunt de 750 000 euros a été contracté en 2018, ce qui a alourdi dès 2019 les dépenses liées au fonctionnement et d'investissement. Cet emprunt est venu se cumuler aux 200 000 euros contractés en 2015, qui avaient déjà alourdi des dépenses liées au fonctionnement et d'investissement. Donc, ces deux emprunts, si ces deux emprunts avaient été remplacés par de la DSC, la situation financière serait bien meilleure. Donc, là, c'est des constats. Donc, voilà. Donc en 2021, la CCRLP a pris la décision d'augmenter la DSC versant la somme de 394 000 euros. Et cette augmentation entre 2020 et 2021 permet aux recettes réelles de fonctionnement d'être supérieures aux dépenses réelles de fonctionnement. Si elles ne l'étaient pas, on serait déficitaire. Donc voilà. Donc même si en grande partie des dépenses réelles de fonctionnement ont été maîtrisées et d'autres baissées, il est incontestable que la DSC est une variable financière substantielle au bon équilibre des finances de la commune, compte tenu des services qui ont été mis en place sous le mandat 2014-2020. Parce qu'effectivement, si les dépenses ont augmenté, c'est parce qu'on a mis des services en place, hein, bien entendu. Hein. Ensuite, l'évolution des excédents de fonctionnement. Donc, c'est là où, effectivement, on constate... Donc, depuis 2014, que sans la dotation de solidarité communautaire, on serait en déficit. Donc, en 2014, on aurait été en déficit de plus de 22 000 euros. En 2015, de 77 000 euros. En 2016, de 122 000 euros. En 2017, de 402 000 euros. En 2018, de 232 000 euros. En 2019, de 616 000 euros. Et en 2020, de 524 000 euros. En 2021, de 381 000 euros. Ce n'est pas des petites sommes, hein, c'est des sommes considérables. Hein. Donc, comme nous l'a bien expliqué M. Christian Gattegno du cabinet KPMG lors de sa présentation de la rétrospective financière de la commune de 2014 à 2020, le 8 juillet 2021, en réunion publique, la PALU a vécu au-dessus de ses moyens pendant tout le mandat, soit 6 ans. Il a donc fragilisé de manière irrémédiable les finances communales. Il est donc aujourd'hui nécessaire de poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement, la limitation des investissements, avec malheureusement le report de plusieurs années dans la réalisation des projets de notre programme. En effet, nous ne dégageons pas de marge d'autofinancement sans la DSC laissée par la Comcom. Aujourd'hui, notre interco doit se recentrer sur l'exercice de ses compétences propres, les compétences que nous lui avons transférées, et plus particulièrement sur sa compétence économique afin d'attirer et d'implanter des entreprises dans les zones d'activité communautaire. Bien entendu, les recettes fiscales générées par ces installations d'entreprises ne viendront améliorer les ressources communautaires que dans les prochaines années. La DSC n'est donc pas automatique. Il est donc indispensable de rétablir l'équilibre financier de la commune au niveau de son fonctionnement dès que possible. Ensuite, on vous détaille les recettes et les dépenses d'investissement qui ont été générées sur l'exercice 2021. Là, je tiens à remercier l'équipe municipale, élus et agents, pour leurs efforts pour réduire les coûts de fonctionnement au quotidien, parce que je sais que ce n'est pas évident quand on est obligé de faire attention à tout ce qu'on dépense. C'est jamais agréable. Et tout en essayant d'offrir le meilleur service possible, je sais que les agents font ça le mieux qu'ils peuvent, et c'est vraiment, bon, je tiens à les remercier pour ça, c'est important. Et bien sûr, pour tous mes collègues élus, pour eux aussi, c'est pas évident. Voilà, donc pour les orientations financières 2022, donc les éléments à prendre en compte, donc le potentiel fiscal et financier et l'état de la dette. Alors, le potentiel fiscal, c'est la richesse fiscale potentielle d'une collectivité. C'est-à-dire que par rapport au taux d'impôt qu'elle a, Combien elle récupère en produit fiscal par habitant. Donc en 2021, le potentiel fiscal par habitant pour la PALU était de 994 euros. En comparaison, les quatre autres communes membres de la CCRLP disposent d'un potentiel fiscal suivant. Bolène, 1994 euros. La Motte, 1363 euros. Mondragon, 1319 euros. Mornas, 1173 euros. La PALU a le plus faible potentiel fiscal des communes membres de la CCRLP. Ensuite, il y a le potentiel financier. Donc, c'est en plus de la fiscalité, c'est l'ensemble des dotations que nous percevons. Donc là, le potentiel financier par habitant de la PALU, il est de 1042 euros. Bolène est à 1994, La Motte à 1363, Mondragon à 1323 et Mornas à 1189 euros. Pareil, la PALU a le plus faible potentiel financier des communes membres de la CCRLP. Donc pour l'état de la dette, on en avait déjà parlé. Donc aujourd'hui, on a une dette qui est encore dans le ratio des communes de notre taille. Mais comme nous sommes particulièrement pauvres, on ne peut pas emprunter aujourd'hui, on ne peut plus emprunter de toute façon. Hein, voilà. On l'avait déjà dit l'an passé, donc on est toujours tenu d'essayer de nous en sortir sans emprunt. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas faire beaucoup d'investissements. Alors, la DSC. La DSC, donc la dotation de solidarité communautaire, est une dotation annuelle facultative versée par l'intercommunalité aux communes membres. Elle est déterminée selon des critères à définir au conseil communautaire. Donc le régime de la DSC a été profondément modifié dans le cadre des discussions de la loi de finances pour 2020. Elle doit respecter plusieurs règles. Donc les critères de droit commun, donc potentiel financier ou fiscal par habitant et revenu par habitant, doivent être majoritaires et représenter au moins 35% de la répartition totale de l'enveloppe. Donc quand une enveloppe est distribuée, comme nous sommes, on a un potentiel fiscal et financier très faible, on est privilégié. Hein, dans la part qui est versée, c'est nous qui avons la part la plus importante. Les critères de droit commun ci-dessus sont pondérés par la population totale ou la population des GF de chaque commune. Et des critères supplémentaires librement choisis doivent avoir pour objectif de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. Ce qui exclut certains critères qui ont pu être utilisés jusqu'à présent par de nombreux intercos, la dynamique des recettes fiscales. Par exemple, ça va pour les communes qui sont riches, qui ont un potentiel fiscal qui augmente tous les ans. Pour nous, c'est pas rentable. Donc ça, ils ont bien compris au niveau de l'État que s'il fallait rétablir un peu l'équilibre et donner un peu plus aux pauvres, il fallait enlever ce critère. Donc celui-là, ils l'ont enlevé, c'est bien. Donc c'est sûr que si la Comcom reverse un jour, en tout cas, on espère, une DSC, ces critères-là nous avantageront. Voilà. Mais parce qu'on est pauvres. Hein. Voilà. Voilà. Donc ensuite, pour le budget 2022 de la COMCOM, il faut tenir compte d'une baisse des recettes fiscales de l'ordre de 2,6 millions d'euros et prévoir une augmentation de la TOM pour tendre vers l'équilibre financier du service. Donc ça, c'est une info qui nous avait été donnée au niveau intercommunal. Alors, pour nous, pour la section de fonctionnement, voici les contraintes à prendre en compte. Bon, d'abord, la réduction de l'autonomie fiscale, puisqu'avec la refonte de la fiscalité locale, on n'aura plus la taxe d'habitation. Donc, notre seul impôt sur lequel on peut jouer, c'est la taxe foncière. On n'en a pas d'autre hein, au niveau communal, hein, c'est fini. Hein. Ensuite, le plafonnement et la baisse des dotations de l'État. Vous savez qu'ils ont baissé, hein, enfin, ça fait des années maintenant que année par année, on a moins de dotations, ce sera encore le cas cette année. Le déséquilibre du fonctionnement des services communaux depuis 2014, alors ça c'est également une contrainte parce qu'effectivement, les charges elles sont là. Donc nous, il faut à tout prix qu'on arrive à faire tourner les services qui sont en place de manière en dépensant le moins possible. C'est compliqué ce qu'on fait. Hein. Bon. Ensuite, l'intercommunalité est confrontée à de multiples obligations financières, à une forte baisse de ses recettes fiscales. Donc en 2020 et 2021, les dépenses de la CCRLP ont également fortement augmenté à cause des mesures sanitaires de lutte contre la COVID-19. Alors, les projections fiscales et financières. Alors, bon, il faut qu'on augmente notre taxe foncière en 2022. C'est une obligation. Les taxes n'ont pas été augmentées depuis 2013, soit depuis 9 ans. Donc ça, Jean-Pierre nous en parlera tout à l'heure. Il faut qu'on continue à maîtriser nos frais personnels. Mais aujourd'hui, on a entendu à la radio, à la télé, que le point d'indice des fonctionnaires va augmenter de 4%. Alors, bon, ça fait longtemps qu'il a été gelé, le point d'indice, ça me semble normal qu'il augmente. Mais bon, ça, c'est encore quelque chose qu'il faudra rajouter à notre prévision de budget primitif. Améliorer le quotidien des Lapalussiens à la hauteur des moyens de la commune, donc sans emprunt, et en recherchant le maximum d'aide institutionnelle. Étudier la possibilité d'augmenter les produits communaux. Exemple, rénover notre parc immobilier pour le mettre en location et vendre des biens immobiliers. Donc ça, on est déjà en train d'étudier ça. Travailler avec la CCRLP pour permettre le développement des services offerts à la population lapalussienne et optimiser les finances communautaires pour permettre le maintien d'une DSC indispensable au redressement des finances communales. Donc voilà, donc on n'est pas sans espoir. Hein. D'ailleurs, lors du débat d'orientation budgétaire de la communauté de communes, le président a quand même précisé, hein, pour l'heure, aucune DSC n'est prévue pour 2022, donc on ne pourra pas la mettre au budget, puisqu'on n'en sait rien. Mais en fonction de l'évolution des situations individuelles des communes, ainsi que des recettes propres de la CCRLP, il serait possible d'envisager d'abonder une DSC ultérieurement. Alors ça, on sera peut-être en fin d'année, mais bon, donc on espère quand même avoir un petit quelque chose. Voilà, donc ensuite, vous avez bien entendu l'état du personnel, hein, le tableau des effectifs. Vous avez également toutes les indemnités versées aux élus, c'est une information qui est obligatoire. On a oublié de préciser pour M. Lambertin, qui est vice-président, il a bien sûr la même indemnité que M. le maire à la communauté de communes. Voilà. Pareil, on a aussi prévu une subvention au CCAS qui sera revu à la baisse, hein, tout simplement. Nous utiliserons l'excédent reporté pour équilibrer 2022, parce qu'il y a un excédent de 27 000 euros. Donc pour l'exercice 2022, on utilisera cet excédent et on va baisser notre subvention au CCAS. Voilà. Donc il y a aussi quelque chose que la trésorerie nous a demandé de faire. C'est pour les deux budgets annexes que nous gérons, le budget annexe c'est l'assainissement et le budget du CCAS, ils nous ont demandé de valoriser les frais de personnel et tout ce qui est charges de gestion, les photocopies, je donne un exemple, hein, tout ce que peut utiliser le service CCAS pour son fonctionnement. Et donc de le valoriser et de le reverser au budget général. Donc en fait, c'est juste un transfert, hein, de charges. Hein. Ça fera une recette pour le budget général et une dépense pour le CCAS, mais ce sera plus juste puisqu'effectivement, il y a bien des dépenses de fonctionnement pour faire tourner le CCAS. Donc c'est de la logique. Hein. Et pour le budget annexe d'assainissement, ce sera pareil. Il faudra qu'on valorise le temps de travail du personnel et qu'on le valorise également dans ce budget-là. Ensuite, pour la section de fonctionnement, donc on a fait donc pour l'instant c'est un projet de budget, mais vraiment pas encore très précis. On attend encore des éléments. Hein. Donc on a 2 775 000 euros de budget de fonctionnement prévisionnel. Pour l'investissement, donc là vous avez toute une série de projets à l'étude. Bon, il y en a un qui n'est plus à l'étude puisque c'est une certitude. C'est l'ouverture d'une nouvelle classe élémentaire. Donc il y aura de l'acquisition de mobilier et de matériel informatique. Donc ça on l'a, l'Éducation nationale nous a informé. Donc c'est bon, la classe va ouvrir pour la rentrée prochaine. Donc il faudra en tenir compte. Donc ça c'est bien, c'est les enfants, c'est le dynamisme d'une commune. Donc voilà, c'est bien que ça ouvre. Et puis bon, voilà, ça nous fera une réponse de plus, mais c'est comme ça. Voilà. Donc ensuite, on vous a énuméré un certain nombre d'opérations. Je vous rassure, hein, c'est des petites opérations d'investissement. En ce qui concerne les recettes d'investissement, on vous a également indiqué la situation des fonds de concours qui sont attribués par la communauté de communes à la commune et que nous utilisons, enfin que nous parcimonieusement, parce qu'effectivement, pour obtenir les subventions, il faut déjà mettre notre part de financement à nous. Et comme on n'en a pas beaucoup, donc on les utilise un petit peu chaque année. Donc cette année, on fera pareil, on utilisera un petit peu. Et la Comcom nous reportera les crédits pour les années futures. Voilà, donc là, on vous a également indiqué un certain nombre d'opérations, un certain nombre de recettes donc, qui peuvent être programmées. Et ensuite, les différentes opérations, achat de logiciels, achat de terrain, voilà, vidéoprotection, un certain nombre d'opérations qui sont programmées. Donc en investissement, pareil, hein, on est à 892 910 euros en dépenses et en recettes. Donc c'est un des investissements modestes, mais voilà, c'est ce qu'on peut se permettre pour l'instant. En ce qui concerne le budget annexe assainissement, donc là, nous avons également arrêté la section de fonctionnement. Il y a principalement du fonctionnement hein, sur ce budget-là. Donc en recette de fonctionnement, nous avons encaissé 303 744 euros et en dépenses, nous avons dépensé 88 000 euros. Ce qui fait que nous avons un excédent de fonctionnement important de 215 000 euros. Voilà. En investissement, donc on a des recettes pour 196 000 euros et des dépenses pour 44 000 euros. Donc on a également un résultat positif en investissement. Donc ça veut dire qu'au total, en 2021, donc nous avons 367 565 euros d'excédent global. Donc on vous a également mis l'état de la dette. Donc là on a fait un emprunt de 500 000 euros en 2009. Hein. Donc voilà, il y en a un seul. Et les orientations financières pour 2022, c'est un budget de fonctionnement de 287 070 euros. Où effectivement, dans les dépenses, il y aura maintenant la partie des frais de gestion à payer au budget général. Donc c'est normal. Hein. Et donc ça nous fera une petite recette pour le budget général qui partira de ce budget-là. Et en section d'investissement, 206 726 euros, qui sont principalement... On a mis en dépense renouvellement d'équipement en cas de besoin parce qu'on n'a pas aujourd'hui d'opération programmée. En prévision pour 2022, l'étude d'un schéma directeur d'assainissement sera à réfléchir. Voilà.
Je tiens à remercier M. Garinos pour toutes ces explications. Je remercie aussi pour l'élaboration du job, ainsi que M. Amarotti et les services financiers de la commune de la Padue. Le débat est ouvert. Qui veut prendre la parole ? Madame Amaya.
Bonsoir. Donc déjà, remercie M. Garinos pour cette présentation. Donc on va peut-être être un peu brouillon parce qu'il y a des documents qu'on a découverts sur le tard. Il y a eu un souci d'impression. Donc du coup, il y a des choses qui ne vont peut-être pas être dans l'ordre dans ce que je vais vous dire puisque on les a rajoutées ensuite à notre travail qu'on a pu faire en off. Donc je m'excuse par avance s'il y a un peu des choses qui viennent se mélanger. Donc voilà, quand vous avez fait... La petite remarque par rapport au cabinet KPMG, effectivement, il n'y a pas eu de grosse surprise. Hein, ils m'ont dit lors de la réunion de conclusion que pour eux, la gestion financière était surtout due les difficultés à ce qui avait été fait avant 2014 et que le niveau d'endettement était plus raisonnable entre 2014 et 2020. Et voilà, il y a cet héritage, il a fallu le prendre en compte et on a travaillé avec. Par contre, vous nous avez annoncé, du moins pensé que cette analyse permettrait d'avoir un petit peu des prospectives, et finalement, il y en a eu très peu. Il y a eu plus une analyse de ce qui avait été fait, mais peu de direction à prendre, et ça se ressent aujourd'hui au niveau du DOC. Donc au niveau de ce qu'on va débattre ce soir, nous, on n'a pas vraiment envie de rentrer sur la gestion de l'exercice 2021. On verra ça quand on fera le compte administratif. On va plutôt travailler sur les prospections, du coup, mais on va quand même faire une synthèse un peu rapide de ce qui se passe pour 2021. Donc, avec des recettes réelles de fonctionnement qui avoisinent les 2,63 millions d'euros, en 2019, elles étaient de 2,75 millions d'euros. Il y a que 120 000 euros d'écart quand on fait le calcul, et il y avait à l'époque 900 000 euros d'investissement. Donc, voilà, juste pour que le public puisse se rendre compte que l'écart n'est pas énorme. Et d'autant plus, si je reprends la page, que je la trouve. Donc, sur, par exemple, les dépenses de fonctionnement, en 2014, elles étaient de 2 797 000 euros. En 2019, elles étaient de 2 609 000 euros. Donc, on voit que quand même, malgré tout, un mandat qui est passé, il y a eu une économie qui a été réalisée de 190 000 euros et avec des services supplémentaires. Et je pense notamment à la LSH qui a été mise en place sur toutes les vacances scolaires et qui a été étendue en termes d'horaire au mercredi. Donc voilà, les chiffres, c'est vrai que c'est toujours, monsieur Lambertin de le dire, on leur fait dire ce qu'on veut, mais voilà, il y a quand même des chiffres qu'on peut lire aussi et qui ne sont pas toujours à certains avantages. Ensuite, juste, je pense que c'était une époque, page 15, vous évoquiez un coût en 2021 par rapport aux élections municipales. Je pense qu'il faut corriger, c'est départemental et législatif, il n'y a pas de municipal en
plus. En le lisant, je me suis dit que c'était.
Voilà. J'ai pensé que c'était une coquille.
C'est une erreur.
Tant qu'à faire, je l'avais noté, donc vous l'avez dit. Voilà. Après, sur la DSC, parce que vous en parlez beaucoup, moi, je voudrais juste revenir par rapport à votre page. Avec deux documents page 18, me dit Alexandrine. Voilà, sur le tableau, vous faites apparaître donc, les chiffres avec la DSC et sans la DSC. À ce moment-là, il faut aller plus loin, vous faites apparaître sans le chapitre 74 peut-être, sans la DGF, sans la DEPR, sans les contrats avec le département. Si vous retirez les subventions juste parce qu'on n'est jamais sûr de les avoir et que ça vous permet de ne pas faire le calcul, Effectivement, les chiffres sont ce qu'ils sont. Mais quand papa gagne 2000 euros et que maman gagne 2000 euros et qu'on achète des chaussures à Joris pour 30 euros, on n'a pas pris ou l'argent de papa ou l'argent de maman, on a pris l'argent du budget. Là, c'est un peu la même chose. Sauf que vous pointez cet argent qui rentre comme si c'était un argent qui était presque sale et presque qu'il faudrait avoir honte de l'avoir touché, alors que c'est une subvention qui est légale, auquel on avait droit, pour laquelle les élus, la Valucien, à l'intercommunalité, dont Hervé, se sont battus pour les toucher. Voilà, moi, je suis un peu choquée de la façon dont vous parlez de la DSC, parce que je trouve qu'elle est, voilà, elle est pas plus mauvaise que la DGF, la DETR. C'est de l'argent qui arrive, et aujourd'hui, ben, comme on touchait la taxe d'habitation, on ne la touche plus. Aujourd'hui, on touche la taxe foncière, est-ce qu'on la touchera? Pour autant, vous en tenez compte. Et voilà. Pour moi, cette taxe, cette dotation, elle n'a pas de différence avec les autres. Donc, je ne vois pas trop pourquoi vous la pointez. Sachant que si on ne l'avait pas utilisée, on n'aurait pas pu faire d'investissement, puisqu'on sait très bien que quand on a utilisé du fonds de concours, c'était 1 euro pour 1 euro, donc il fallait bien aller chercher ces euros-là. Et ça nous a quand même permis de pouvoir faire des investissements massifs, notamment au niveau des écoles, parce qu'en 2014, je peux vous dire, et que quiconque autour de la table me dise que c'est faux, les écoles étaient dans un état lamentable, avec des dangers imminents pour les enfants quand il pleuvait. Donc voilà, vous avez fait part justement des 200 000 euros de crédit qui avaient été faits, qu'il n'aurait peut-être pas fallu faire de suite. Heureusement qu'on les a utilisés de suite et heureusement qu'on a entamé les travaux, ne serait-ce qu'avec les gouttières, parce que franchement l'école était dans un état désastre, les enfants marchaient sous la flotte pour aller à la cantine. Heureusement que ces travaux-là les ont entamés. Et peut-être que oui, effectivement, peut-être qu'on n'aurait pas dû faire d'emprunt, peut-être qu'on n'aurait pas dû le faire, mais peut-être aussi ces travaux ils devaient être faits en 2013, et peut-être que 1 million d'euros pour le château Julien, c'était peut-être pas urgent. Ça, après, c'est ma façon de voir, ça a été la façon de voir l'équipe, et quand on a décidé de faire ces travaux-là, personne, voilà, on a tenu le même propos que vous, c'est-à-dire que pour les enfants, tout le monde était d'accord. Donc, juste pour revenir, pourquoi il y avait ces 200 000 euros, et voilà, j'ai pas l'impression que ça a été une mauvaise décision, et ça a été compris de tous, quoi. Alors, je sais pas si vous voulez que je continue, si vous voulez déjà répondre un petit peu à ça.
Oui, je veux bien, oui. Je vais bien répondre à ça, déjà.
Parce qu'après, ça fait long, et puis
on peut se faire. Oui, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup.
Voilà, donc en fait, vous avez dit plusieurs choses. Donc d'abord, le rapport de KPMG. Le rapport de KPMG ne dit pas ce qui s'est passé avant 2014, parce que son étude est de 2014 à 2019. Avant 2014, il ne l'a pas étudié. Ce qu'il nous a dit, c'est qu'entre 2014 et 2019, nous avons bien investi. Il a bien, et d'ailleurs, ça répond un petit peu à l'ensemble de vos questions, qu'on a bien utilisé les fonds de concours, puisque les fonds de concours ne sont destinés qu'aux investissements. Donc, effectivement, là, il fallait qu'on ait la part d'autofinancement. Donc, c'est effectivement, les investissements, c'est bien. Bon. Le problème que nous avons eu, c'est que la DSC a augmenté de manière importante à partir de 2017. Elle est passée à plus de 600 000 euros. Et si effectivement les 600 000 euros avaient été affectés en autofinancement encore à l'investissement, ça ne posait pas de problème. Ce qui s'est passé et ce qui nous a bien expliqué, c'est qu'on a vécu au-dessus de nos moyens en fonctionnement et qu'effectivement on a dû créer la LSH. Moi, je ne sais pas ce que vous avez créé, il y a peut-être d'autres services qui ont été créés. En tout cas, on a embauché du personnel. Il y a des choses concrètes qui ont été faites et qui ont consolidé la dépense avec une recette qui n'était quand même pas certaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, on le vit depuis 2020, cette dotation de solidarité communautaire, elle n'est plus là. Mais les dépenses qui ont été consolidées, qui ont été générées pendant toutes ces années-là, elles sont là. Et le problème, il est là. Aujourd'hui, les recettes sans la DSC ne couvrent pas les dépenses que nous avons annuellement. C'est ça qu'on vous a expliqué. Et personne ne l'a vu. Moi, ce qui me gêne, c'est ça. C'est que personne ne s'est rendu compte qu'on allait droit au mur. Ça me gêne beaucoup, par contre. Ça me gêne beaucoup. Bon. Ensuite, vous dites que les dépenses de fonctionnement ont diminué. Oui, elles ont diminué parce qu'il y a eu des transferts de compétences entre 2015 et 2019, ou même après, il y a eu des transferts de compétences. Donc c'est normal, puisqu'on a transféré des services à l'interco, donc c'est normal que les dépenses de fonctionnement baissent. Donc voilà, donc je pense qu'il faut quand même qu'on soit conscient du problème que nous avons, parce que nous l'avons en commun. Et moi, je ne cherche pas à savoir qui l'a fait. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on se retrouve dans une situation, une impasse financière, où nous avons des services, nous avons du personnel, nous avons des agents qui travaillent très bien, on a une bonne équipe. Et derrière, on n'a plus de financement pour financer tout ça. Et ça pose problème. La Comcom, aujourd'hui, ne peut pas nous garantir un versement de DSC. Si en plus, si honnêtement, pour tout vous dire, hein, si on pouvait avoir une DSC, même si elle est dégressive, mais avoir un petit peu d'argent annuellement pour finir le mandat et arriver à sortir de cette impasse, c'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à faire des économies de fonctionnement, il faut qu'on arrive à générer un peu plus de recettes parce que sinon on ne s'en sortira pas. Donc là, on s'en sortirait mieux. Mais aujourd'hui, la Comcom ne peut pas nous garantir non plus. Donc voilà. C'est plus compliqué que ça.
Je vous remercie pour votre réponse. Hein. Effectivement, si la Comcom ne vient pas, c'est son rôle, hein. C'est une dotation solidarité. Et vous l'avez dit au début, le conseil a toujours été le même, et on l'a toujours dit, même quand on était dans la même mandature, on l'a toujours dit, la PADU est le village pauvre de l'intercommunalité. Et il fallait en permanence se battre auprès des autres maires pour dire que oui, la PADU touche plus que les autres, mais parce que alors si les gens de la PALU consomment dans les villages occupés, travaillent, génèrent une force aussi, parce qu'il ne faut pas pleurer, les gens de la PALU pour la grande majorité travaillent sur Bolène, travaillent sur les villes alentours, consomment dans les villes à côté. Donc quand l'interco touche, ce qui était avant la taxe professionnelle, et qu'elle a fait cette photo de redistribution, la DSC qui était accordée à la PALU, elle n'était pas faite pour rien. Et c'est tout le travail qui est aujourd'hui à faire et à mener par les élus de l'interco, auprès d'Antoine Zio et puis des autres maires, hein. c'est tout le boulot qu'il y a à faire et je comprends que ça puisse vous inquiéter. Mais pour autant, on ne doit pas pointer que la DSC comme étant un souci, il y a d'autres choses qui peuvent rentrer. Parce qu'on demande aujourd'hui la solidarité de l'Interco en disant qu'il ne joue pas son rôle, pour autant, on a encore droit à du fonds de concours qu'on n'a pas forcément cherché.
Oui, mais si on n'a pas l'argent pour les
payer. Oui, mais malgré tout, on a quand même, je ne sais plus, je vais reprendre votre feuille, hein, c'est vous qui l'écrivez, hein, section d'investissement, vous avez quand même une somme qui apparaît et qui est plutôt importante.
Elle
peut être abaissée quand on va chercher de la DSC, quand on va chercher du fonds de concours et qu'on vient mettre les lignes en face. Ça ne s'invente pas, c'est des mathématiques. L'argent, quand vous en dépensez 50 et que c'est l'investissement et que ça ne vient pas de la compétence interco, vous pouvez aller chercher 50 à l'interco. Après, bon, ça je vais vous expliquer, je pense que vous êtes capable de le voir et d'aller chercher, mais il ne faut pas avoir peur d'aller chercher au même titre qu'on va chercher l'argent bien, la DETR ou la DGF. C'est des subventions auxquelles on a droit, il faut y prétendre, il faut aller les chercher avant que les robinets se coupent et qu'on n'ait plus rien. Voilà. Je ne vais pas faire un monologue parce que j'aime pas quand c'est toujours les mêmes personnes qui parlent, et donc je vais laisser la parole à Alexandrine pour dérouler la suite.
Bonjour M. Carlos. Donc, juste pour faire une petite parenthèse côté DSC, c'est vrai que ce qu'il faut bien qu'on comprenne tous, c'est que sans cette DSC, le village n'aurait jamais pu acquérir et faire ce qu'elle a fait pendant la mandature d'avant. Le but, c'était effectivement de se mettre un petit peu à la même hauteur que les autres villages, sachant qu'on était la commune la plus pauvre. Donc, effectivement, comme dit Estelle, il ne faut pas sans arrêt mettre cette DSC comme si c'était la cible à abattre. Sans elle, on n'aurait jamais pu réaliser beaucoup de choses et je crois que. Je suis d'accord avec Estelle, il ne faut pas hésiter quand on le peut à aller la chercher. Il faut bien comprendre que cette DSC, on ne l'a pas prise pour se la mettre dans la poche ou pour se payer des petits services, mais pour offrir du service à la population qui aujourd'hui encore, on le voit bien, est très contente de la LSH, des services qui sont proposés et que vous continuez également à maintenir. Donc voilà, c'était des dépenses certes, mais pas des dépenses inutiles. Aujourd'hui, vous avez raison, il faut aller chercher l'argent où on le peut. Et ce n'est pas évident, c'est vrai, mais je crois qu'il faut essayer de trouver voilà, des solutions pour effectivement dégager du bénéfice. Ensuite, une petite question aussi qui nous vient à l'esprit, c'est par rapport aux taxes foncières. Donc vous nous avez expliqué qu'effectivement, il y avait donc une base fiscale qui était augmentée donc, au niveau national, et donc vous parlez éventuellement d'une augmentation par rapport à la part communale. Est-ce que vous savez à peu près quelle augmentation vous souhaitez faire? Quel en sera le bénéfice pour vous? Et est-ce que réellement, attendu de l'actualité, des problématiques que rencontrent les gens au point de vue budget, économique, est-ce que ça serait vraiment opportun et indispensable de la monter aujourd'hui? Sachant qu'il y a l'augmentation du gaz, de l'essence, du chauffage, et que voilà, beaucoup de gens rencontrent des difficultés de ce côté-là.
Alors effectivement, on n'a pas le choix. Alors bon, vous avez raison, la DSC, c'est bien de l'avoir, et ce serait bien de l'avoir encore, mais bon, la Comcom a des compétences propres à gérer, a des compétences transférées à gérer. Elle nous a effectivement redonné quelques petites compétences, parce qu'elle avait également, elle-même, a du mal à gérer son budget. C'est comme ça, chacun gère, hein. C'est pas facile pour personne. Donc effectivement, si on pouvait avoir quelque chose, ce serait très bien. Mais c'est pas ça qui va nous sauver, on est trop dans le... fond. Donc en fait, l'augmentation de fiscalité est indispensable. Alors après, il faut que nous, on ait les derniers chiffres que nous attendons pour pouvoir établir un budget définitif, un projet de budget définitif à vous soumettre. Et là, on pourra vous dire exactement le combien on va proposer d'augmenter la taxe foncière. Mais il est clair qu'il faut. On n'a pas le choix.
Juste une, pour vous rebondir sur ce que vous venez de dire, autant la Comcom elle nous a redonné des tâches, des payés PAV, ce genre de choses, autant elle ne l'a pas valorisé et elle ne vous l'a pas restitué, alors que vous trouvez que c'est tout à fait normal de le faire sur le budget assainissement et sur le CCAS. C'est juste une parenthèse. Peut-être que si on se l'appliquerait, il faudrait l'appliquer jusqu'au bout.
C'est juste une...
En fait, ils nous ont redonné quelques compétences, comme par exemple les encombrants, qui, a priori, sont aussi faciles à organiser chez nous et ne coûtent pas énormément cher, et qui auraient sans doute été plus chers de le faire à leur niveau à eux. En fait, ils ont essayé de trouver des économies, mais bon, c'est ce que nous faisons aussi.
On fait pareil.
Ensuite, autre petit point, vous nous avez donc parlé d'une volonté de rénover le parc immobilier de la commune pour le mettre en location, ce qui est une très bonne idée. Seulement, on ne retrouve rien en question de projection budgétaire. Vous nous avez parlé de volonté de rénover le parc immobilier de la commune, notamment d'achat de terrain, de revente.
Oui, tout à fait.
On ne voit aucune projection budgétaire.
Alors là, moi honnêtement, ça c'est plutôt M. le maire et M. Lambertin qui peuvent répondre. Hein. Moi je
bon, mais c'est facile.
Je ne maîtrise pas, hein, c'est que les finances.
C'est facile. Hein. Ça marche cette affaire. Hein.
En bas. En dessous, dessous.
Ah oui. J'y vois rien. Mais il y était déjà. Bon, non, c'est facile à répondre à la dernière question parce que concernant l'aménagement de logements éventuellement dans du patrimoine, donc c'est à faire. Donc on ne peut pas inscrire des recettes avant même d'avoir fait les travaux pour pouvoir louer éventuellement un logement. On ne va pas mettre une recette dans le budget alors qu'on n'est pas prêt de le faire.
C'est
il faut faire quelques travaux d'aménagement.
Elle fait allusion à la dépense, pas à la recette.
C'est dans la masse des travaux que vous retrouverez dans l'investissement. Et puis, il y a des travaux qui sont faits en régie aussi par le personnel municipal. Voilà. Donc, on n'inscrit pas tout, certains petits travaux pour rénover un logement, s'il y a un peu de peinture, s'il y a un peu certaines choses à faire, eh bien c'est le personnel municipal, ce qu'il en reste, peut éventuellement faire quelques travaux d'aménagement là-dessus. Voilà, donc sur cette affaire-là. Et sur le reste de patrimoine de foncier, sur les histoires de vente, mais il n'y a pas actuellement, il n'y a aucune rentrée de prévu dans les semaines ou les mois qui viennent. Pour le moment, on ne peut rien inscrire avant d'avoir une certitude de pouvoir le mentionner dans le budget. On n'explique que les recettes.
Parce que parmi vos projets 2022, on retrouve à titre principal les achats de terrain aux abords du château d'eau pour 242 000 euros.
Oui, 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 oui. On prévoit d'acheter un terrain aux abords du château d'eau, puisqu'il était au PLU à l'emplacement réservé. Donc, mais là, on a demandé qu'on nous sollicite des subventions à la région et à le département. Tout le monde a été sollicité déjà depuis l'année dernière et on pense pouvoir l'inscrire cette année avec les aides qu'on obtiendra. Voilà. Donc, et puis, si on arrive, nous, à vendre un terrain, donc on en vend un, on en achète un autre à la place, etc. Voilà un petit peu le système qui est prévu. Mais c'est, ça ne peut pas être formalisé dans le DOP maintenant. Parce que ça, ce n'est pas encore acté, à part l'achat du terrain qu'on prévoit là-bas avec les subventions que nous attendons. Voilà. Donc, ça, c'est...
Et est-ce qu'on veut savoir ce terrain à quel objectif ou quel but l'objectif,
c'est pour des équipements communaux, quand on aura les moyens de les faire.
Donc là, on n'est plus dans les logements.
On préfère. Non, non, ce n'est pas pour du logement. Non, non, c'est pour des équipements communaux, ce n'est pas pour faire des HLM.
Voilà.
Ouais,
on ne serait pas
inquiet
si vous faisiez
des HLM. Mais les HLM, c'est pas nous qui achèterions le terrain. On le ferait acheter au HLM si c'était vous. Voilà. Donc, oui, j'ai entendu parler tout à l'heure d'héritage. Donc, chacun a son héritage. Moi, à l'époque, quand j'ai été maire, je suis arrivé en 1977 avec un budget de 37 000 francs à la plaine. Bon, ça ne vous dit rien, il y a depuis le passé de l'eau sous les ponts, comme on dit, mais c'est pour donner l'idée. Et moi, pendant les 37 années de mandat, il y a quelques élus qui le savent, qui étaient avec moi. On savait que la situation de la PAMU était une commune pauvre. On a essayé donc de faire quelques zones d'activité, c'est vrai. Pas suffisamment, parce qu'après, les inondations nous ont foutu tout en l'air, alors qu'on avait prévu de continuer à développer de l'autre côté, aux abords de la Nationale 7. Donc ça a été fini avec le PPRI, la zone rouge, etc. Donc ça, c'est fini. Ensuite, il aurait fallu se réorienter ailleurs, donc que ça aurait pu être fait commencer déjà par le passé, même si on a inscrit au PLU, donc reste du travail à faire, et maintenant c'est l'Interco qui doit réaliser les autres activités. Donc ça c'est un point à travailler, nous essayons avec l'intercommunalité d'avancer là-dessus, parce que l'Interco aurait des recettes, mais la PALU aurait aussi du foncier, donc d'entreprise qui n'est pas inintéressant. Donc ça, c'est vraiment... Alors, pendant ces années passées, chaque année, quand on faisait le budget, moi je me rappelle, depuis très longtemps, on savait que la commune était pauvre et on essayait donc de serrer au maximum. D'ailleurs, on en était souvent, quand on parlait en euros, à 100 euros près ou 50 euros près, même, on essayait de pinailler là-dessus. Et on essayait, chaque année, on me l'a reproché, après, quand j'ai plus été là, même ceux qui étaient avec moi et qui chaque année votaient le budget m'ont reproché d'avoir augmenté les impôts avant 2014. Moi, ce que je faisais, sachant les difficultés de la commune, on était malheureusement obligé d'actualiser les taux d'imposition. Je mettais l'augmentation du coût de la vie, c'était en moyenne de 2% par an qu'on mettait chaque année et ça permettait de rester au niveau. Et à l'époque, il n'y avait pas de DSC. Pour revenir à la DSC, je crois que c'est une excellente chose. On est demandeur de la DSC auprès de l'Interco. Ce qu'il y a, c'est que c'est une recette qui n'est pas acquise toutes les années. Donc, une année, on peut l'avoir, une année, on ne l'a pas. Ça dépend des finances et des possibilités de notre intercommunalité. Je ne reproche pas d'avoir cette DSC, elle a permis, c'est vrai, de faire des investissements importants, il fallait les faire, ça je crois que c'était indispensable. Les écoles, on avait commencé d'abord par la cantine. Quand j'étais président de l'Interco, on avait attaqué pour la cantine, c'était prêt, il n'y avait plus qu'à le faire. Et les écoles, on avait travaillé, donc, au dossier des écoles, on avait même rentré, je l'ai déjà dit, les subventions de l'État, les subventions du département, donc on était prêt à effectuer des travaux sur les écoles qui, effectivement, en avaient bien besoin, je suis d'accord avec vous. Mais si on n'avait pas fait avant, les écoles, c'est qu'on avait, on n'était pas prêt déjà pour le faire. Et puis, les compétences allaient être modifiées, la loi NOTRe arrivait. C'est la raison pour laquelle, moi, j'avais pensé que la loi NOTRe arrivait, je savais qu'elle allait s'appliquer 2 ans après ou 3 ans. On avait dit, ben, les écoles, on va attendre encore 1 ou 2. Le dossier était prêt, on avait vu l'architecte et tout, on y avait travaillé avec les enseignants aussi, et on avait dit, on va décaler les écoles 1 ou 2, parce qu'après, c'est l'interco qui prendra le relais. Voilà ce qui avait été prévu à l'époque. Donc c'est pour ça qu'on a fait l'aménagement du parc et du château, qui était aussi demandé, et ça d'ailleurs a été voté par toute l'équipe municipale qui m'a entouré, dans laquelle il y avait bon nombre de vos collègues qui après, y compris le maire précédent, tout le monde avait été d'accord là-dessus, ça avait fait l'objet d'aucune remarque. Voilà, donc ça, c'était quelque chose qui était nécessaire. Alors la DSC, ce qu'on reproche, c'est de pas d'avoir fait les investissements que vous avez faits, c'est que une part de cette DSC a été mise, elle rentre en fonctionnement, mais en fait, il ne faut pas s'en servir pour fonctionner, il faut fonctionner par ses propres moyens. Et c'est moi, c'est ce qui me poussait chaque année à actualiser les bases d'imposition de 2%. Et bon, mais ce n'était pas un drame national lorsqu'on augmentait les bases de 2%. Alors, je sais que la population, c'est très difficile. Ils prennent de plein fouet de certaines augmentations où ils ne peuvent rien. Alors, il y a eu la suppression, c'est vrai, de la taxe d'habitation, mais parallèlement à ça, ben, l'État sert dans ce qu'il nous attribue, bien, il sert les boulons, comme on dit, et il nous en enlève un peu chaque année. Donc, la taxe d'habitation, l'État récupère de son côté une partie. Alors, il nous transfère un morceau de foncier du département, mais ce transfert, il n'est jamais actualisé. C'est-à-dire, vous avez des habitations en plus, etc. Donc, les taxes d'habitation nouvelles, elles disparaissent et elles ne sont pas vraiment compensées. Donc, là-dessus, il faut être extrêmement vigilant. Donc, la DSC, eh bien, il faut pratiquement tout l'investir, il ne faut pas en garder pour fonctionner. Voilà. Ce qui n'empêche pas qu'on continue à demander de la DSC parce que c'est nécessaire. Moi, je pense qu'il aurait fallu, objectivement, il aurait fallu actualiser chaque année de 1 à 2% supplémentaires les taxes. Vous savez que nos taux d'imposition sont nettement inférieurs à la strate des communes comme la nôtre. On est inférieur. Quand les gens viennent habiter à la Palue, qui viennent d'une autre commune, ils se rendent compte que ce soit au niveau du foncier, et c'était le cas aussi de la taxe d'habitation, que c'était sans aucune commune mesure ce qu'ils payaient auparavant. Donc, c'est pas, il faut pas être bordé sur les augmentations des impôts. Je dis qu'il faut régulièrement réajuster. Comment voulez-vous faire avec ce qui se passe là, avec l'augmentation du carburant, de l'électricité, du gaz? Comment voulez-vous faire? Même au niveau des ménages, c'est la même chose. Vous êtes obligé d'en prendre une partie plus importante pour donner. Et dans un budget, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si on a ça en plus, ben, il faut l'enlever à quelque part. Hein, donc, et une commune, ben, la gestion d'une collectivité, c'est pour équilibrer, il n'y a pas ces 4 solutions. Il faut qu'on arrive à chercher des subventions, c'est ce qu'on fait d'abord, essayer de trouver du côté de l'Interco qu'on nous donne des dotations supplémentaires ou qu'on récupère des charges qu'on a. Mais là, bon, l'Interco, elle a ses problèmes aussi. Donc voilà ce qu'il avait. Bon, voilà ce que je voulais dire. Je crois qu'il faut être raisonnable. Il faut raisonner, il faut être sérieux dans la gestion et il faut essayer de suivre l'évolution du coût de la vie, et puis sachant qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont aussi en difficulté et qui ont du mal. Ça, je le reconnais volontiers, même s'ils ont perdu la taxe d'habitation, mais ils payent bien d'autres choses encore plus cher que ce qu'ils payaient là. Et c'est pareil pour les travaux qu'on fait, ben, ça coûte plus cher, tout augmente, donc voilà, hein, c'est très compliqué. Voilà l'équation qui est difficile à résoudre sans que chacun prenne ses responsabilités. C'est tout.
Merci, monsieur.
Juste avant de dérouler la dernière remarque pour s'en aller, pour rebondir sur ce que vient de dire monsieur Lamartin, déjà, vous me faites plaisir de dire que c'est qu'une part de la DSC qu'on a utilisée en fonctionnement, parce que depuis le début, ce que vous disiez, c'est qu'on avait coupé un tiers en fonctionnement pour équilibrer le budget. Là, vous avez dit une part, donc vous m'avez fait franchement plaisir ce soir, donc je termine avec ça, c'est rare pour vous, parce que j'ai plaisir dans vos propos, donc autant le souligner. Autre chose, ce que vous disiez sur l'impôt. Alors, autant j'aurais pu entendre que vous me disiez aujourd'hui, la situation actuelle fait qu'on a énormément de dépenses qui étaient imprévues. Il y a eu le Covid, il y a eu l'essence, il y a eu tout ça.
Oui.
On avait projeté de ne pas augmenter les impôts parce que dans notre tête, c'est quelque chose qui n'était pas obligatoire. Ce n'est pas le discours que vous venez de tenir. Vous venez de dire que pour vous, les impôts, il faut les augmenter tous les ans, que c'est comme ça, que c'est la part de tout le monde. Seulement, j'en reviens à ce que vous avez écrit dans votre programme. C'était clair et net que vous étiez aussi, comme nous l'avions fait dans le mandat précédent, pour une non-augmentation de la taxe foncière. Et là, aujourd'hui, vous faites un virage à 190 degrés. Pas en justifiant en disant la conjoncture fait qu'aujourd'hui on change de fusil d'épaule et on revoit ce qu'on avait dit. Le propos que vous tenez ce soir, c'est que pour vous, les impôts, quoi qu'il en soit, il faut les augmenter tout le temps. Donc voilà. Ça, c'est juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Et voilà, je vois que certains acquiescent ce que je viens de dire. Donc
oui.
Je pense qu'il n'y a pas.
Surtout quand on trouve la situation qu'on vient de trouver.
Oui, mais n'empêche que la situation, vous la connaissiez peut-être pas, les autres la connaissaient.
C'est l'héritage.
Les budgets ont toujours été ouverts et à la vision de tout le monde.
Oui.
Et vous étiez bien placé pour savoir les lire et savoir les.
Non, j'étais à la retraite, je viens de
te. Mais je pense qu'après 35 ans de mandature, vous savez lire un budget de mairie plus que certains. Donc, me dites pas que vous ne savez pas lire un budget, je ne peux pas y croire. Que moi, j'ai encore du mal à lire les chiffres. Certes, que vous ayez du mal à les lire, non, je serais surprise. Juste une dernière question pour M. Garinos. Donc au niveau du budget, il y a eu des demandes de subventions que vous nous avez faites passer, notamment pour rénover la nuit de la gare, avec une fin de travaux prévue en septembre 2022, et une demande de subvention de 6 800 euros pour je crois, l'informatique aux écoles, identique avec une fin de travaux en septembre 2022. Mais là, dans le budget, en fait, on ne voit pas apparaître la fin de ces travaux, la budgétisation de ça. C'est un oubli ou
c'est une
vous pensez le faire à une période
de. Non, c'est un dogme. Et ensuite, c'est une demande de subvention. Après, vu nos finances, on verra si les travaux seront effectués.
D'accord.
C'est une demande de subvention à chaque fois.
Oui, mais comme il y a eu noté une fin de travaux en septembre 2022, on s'est interrogé sur pourquoi ce n'était pas inscrit.
On a obligé de l'annoncer à
chaque fois. D'accord. Mais c'était juste une.
Je vais juste dire un petit mot. Je relis ce que par rapport aux dogmes de Mme Amaya et par rapport à ce qu'a dit M. Lambertin, par rapport à la DSC, pas tout dans le fonctionnement, mais pas sur toutes les années 2019, résultat de fonctionnement sans la DSC, moins 616 427 euros, sachant que la DSC versée était de 621 535,50 €. Donc, quoi qu'il en soit, on n'aurait pas eu cette DSC en fonctionnement déjà, honnêtement. Il y avait quoi d'autre par rapport à la DSC, ce que vous disiez tout à l'heure, non, Mme Amaya, elle n'est pas sale, la DSC. Ça, c'est sûr et certain. Je vais dans votre sens. On en a eu besoin pendant, sur le mandat 2014-2020. Et ce que vous disiez par rapport à un père et une mère de famille, je l'ai marqué, qui gagnent 2000 euros chacun. Ça fait 4000 euros, si je compte bien. Par contre, ici, par rapport au mandat qui est le mandat précédent, si elle dépense 5000 euros, le gamin ne s'achètera pas de chaussures, ça c'est sûr et certain. Ils pourront même vendre la maison.
Mais la remarque, c'était pas ça. La remarque, c'était que l'argent du foyer, elle n'est pas forcément ciblée.
Non, mais voilà.
La remarque, ce n'était pas sur les montants, c'était que quand on dépense un argent d'une enveloppe globale,
oui,
il y a un investissement, il y a un fonctionnement.
J'ai ici parlé tout à l'heure.
La recette, elle n'est pas forcément
une fois où vous avez envie de mettre. S'il vous plaît, madame, par rapport à l'intercommunalité, la grosse difficulté qu'ils ont cette année, par rapport à cette fameuse DSC, c'est que la CVAE et la CFE, il y a 2 600 000, comme l'a dit M. Garrigan tout à l'heure, en moins. Et 2 600 000, pour l'intercommunalité, c'est énorme. Donc déjà, il faut que eux, ils arrivent à avoir leur fonctionnement, car le fonctionnement, c'est 30 millions d'euros à peu près sur l'intercommunalité, et pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Je reviens aussi pour équilibrer un budget. Vous savez très bien qu'un budget, quand il est en très grande difficulté comme la nôtre, il y a deux solutions. La première, celle qu'a évoquée M. Garrigan. La seconde, on ne fait rien, on attend. Et dans un an, on est mis sous tutelle. Qui dit mis sous tutelle, c'est rapide, vous savez ce que ça commence à consister. Les taxes, quoi qu'il en soit, c'est la préfecture qui choisit le taux. On finit comme à Pau, où on a eu une augmentation, voire de 200, voire 250% d'augmentation pour arriver à régler le budget. Voilà. Les associations, bien entendu, n'ont plus rien. Voilà. Plus le reste qui va avec. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Ou on ne fait rien et on réfléchit en disant ben, on ne va rien faire et advienne que pourra pour la suite. Ou alors, ce qu'on fait, mais on réfléchit à trouver des solutions. C'est ce qu'on essaye de faire avec M. Garrigan. Et d'ailleurs, je suis très heureux d'avoir à mes côtés. Pour essayer de sauver notre commune. Et à un moment, ce que je ne sais pas si. Alors, je n'ai peut-être pas compris, j'en suis désolé. Mais sachez que l'investissement ne peut plus aller en fonctionnement. Ça serait trop beau sinon. Ça, c'est sûr que sinon, on vend des terrains, on rebascule tout ce qui est investissement en fonctionnement, et ensuite, on est tranquille pour les années à venir. Et là, c'est bon. Voilà, j'en ai fini pour le débat. Je vous remercie, vous savez qu'il n'y a pas de vote. Oui, M. Paris.
Je voudrais préciser quelque chose. Madame Amalia et Rios, Madame Amalia et Rios, vous semblez vouloir préciser, après le discours de M. Ambertin, que nous sommes certains élus, hein, selon ce que j'ai compris, favorables à une augmentation régulière.
Ah non, j'ai pas dit ça, j'ai dit l'inverse. J'ai dit que certains avaient acquiescé quand je disais qu'ils étaient eux aussi à la base dans l'optique de ne pas augmenter l'impôt. J'ai jamais dit que vous étiez favorable à le faire.
Ah d'accord.
Ah non. Demandez à Virginie.
Ben, d'accord, tant mieux. Tant mieux si j'ai mal compris.
Au contraire, c'est au contraire ce que je disais.
D'accord.
Au contraire, je disais que quand vous avez écrit votre programme, vous étiez tous favorables au fait qu'il n'y ait pas d'augmentation. Et que j'aurais compris qu'aujourd'hui, vous changez votre fusil d'épaule compte tenu de la situation, mais que le propos de M. Lambertin, c'était que pour lui, on n'a toujours pas voulu augmenter depuis 2014, et que certains dans la salle, quand j'ai dit ça, avaient acquiescé de la tête, en étant d'accord avec moi. Donc, je n'ai pas dit que vous étiez favorable à cette augmentation.
D'accord,
et que j'aurais voulu la faire pourtant.
Très bien, très bien.
Montre-moi cette idée, au contraire.
C'est plus clair. Maintenant, ce qu'a voulu dire, je pense, M. Lambertin, c'est que dans la gestion d'une mairie, il faut être raisonnable. Et il faut essayer de bien gérer une mairie. Il y a eu des problèmes de gestion qui ont engendré la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et peut-être que s'il y avait eu des augmentations, je ne dis pas régulières, mais des augmentations par le passé, peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est, où il va falloir prendre des mesures compliquées, voilà, en termes d'économie ou d'augmentation de taxes. C'est bien dommage. Peut-être que si ça avait été fait modérément, petit à petit, bah, peut-être régulièrement ou pas, mais en tout cas, peut-être qu'on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Voilà, merci.
Enfin, si on augmente le taux d'un point, vous savez combien ça rapporte pour la commune?
Non, vous allez nous le dire.
Non, je ne vais pas vous le dire, mais vous vous rapprocherez de vos financiers et ils vous diront. Ce n'est pas ça qui sauvera la situation. Après, je l'entends, et comme je l'ai dit, je peux le comprendre avec la situation actuelle, changer de fusil d'épaule. C'était pas sur ça que je suis allée. C'était sur le fait de dire qu'il y a certaines politiques qui disent qu'il faut les augmenter tout le temps, et d'autres qui disent que voilà, il y a des anciens gestes.
Merci, là, merci de nous comprendre. Ouais. Mais je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est dans la gestion d'une commune, il faut être raisonnable. Voilà. Et si ça doit être régulier, et si le raisonnable veut qu'on soit régulier, bah peut-être que c'est la solution. Voilà. Mais ça s'évalue. Voilà.
Je pense qu'on est bien d'accord sur ce point. Les dépenses, il faut les faire de façon modérée et pas de façon irréfléchie. Je pense que ce qu'on a voulu essayer de faire pendant notre mandat, c'est de faire les choses réfléchies. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est si le mandat qu'on vous a laissé est si catastrophique, si les comptes sont si pitoyables que ça, alors qu'on était fous de vouloir repartir. Enfin, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Alors, soit on est très mauvais, soit de votre côté, il y a peut-être des lacunes aussi, je ne sais pas. Mais moi, je ne comprends pas comment on peut avoir un tel discours et comment vous pouvez décrire les choses de cette telle façon. À chaque fois qu'on fait un conseil municipal, on vous entend, on m'excuse, mais que vous plaindre. Alors certes, les choses ne sont pas faciles, certes, la vie fait qu'il y a plein de choses de difficiles, que gérer les comptes, c'est pas une tâche facile, mais arrêtons un peu de se plaindre et essayons d'avancer tous ensemble.
Non, nous ne sommes pas dans la plainte. Nous relatons des faits.
Voilà.
Et il y a.
Vous savez, moi, à chaque fois qu'on entend quelqu'un dire quelque chose, c'est pour dire que tout ce qu'on a fait, c'était mal, c'était mauvais, on ne savait pas
comprendre. On n'a jamais dit c'était pas bien. On a juste dit qu'on a retrouvé des finances et que nous nous attendions pas à avoir des finances telles qu'elles sont. Point final. Ensuite, on nous a critiqué quand on a mis KPMG en disant que vous avez dépensé 4 000 euros, mais heureusement qu'on a dépensé ces 4 000 euros, parce que sinon, on aurait dit, si on n'avait pas pris cette étude financière, on nous aurait dit, mais vous racontez n'importe quoi, monsieur le maire, vous dites n'importe quoi. Nos finances étaient très bonnes. C'est que, et d'ailleurs, vous l'avez sorti une ou deux fois, c'est vous qui avez dépensé n'importe comment. Alors que c'est pas vrai. Quoi qu'il en soit, ce qu'il y a de sûr, c'est que grâce à cette étude, qui elle montre clairement qu'il y a eu des dépenses de fait sur le fonctionnement, alors qu'elles ne devaient pas être faites. Et il fallait économiser sur certains chapitres, au lieu de dépenser des sous à tort. C'est tout. Voilà, le final. Maintenant, sur tout ce qui a été fait d'investissement, d'ailleurs, je l'ai dit, je sais plus quand, mais je l'ai dit, je ne critique pas l'investissement qui a été fait par rapport aux écoles, même si, quoi qu'il en soit, à Capo, il peut encore, mais à René-Charles, c'est neuf, ça c'est sûr et certain, mais je peux vous certifier qu'on ne critiquera pas l'investissement qui a été fait sur 2014-2020. C'est l'histoire de la gestion financière, comme l'a dit M. Paré, comme le dit M. Lambertin, c'est ce qu'on critique, c'est tout. Après, vous avez votre avis, nous avons le nôtre. Point final. C'est tout.
C'est juste ce que vous dit Alexandrine, mais arrêtons et travaillons. Elle vient juste de vous dire, là, on a posé des questions en lien avec le DOAB. On vient expliquer certaines lignes, parce que quand on parle de la dette qui est colossale, on explique juste pourquoi il y a des lignes de dette et qui les a souscrites. Il n'y a pas de mensonge là-dedans, mais d'accord. Si on reprend le tableau de la dette, qu'on prend les lignes, il n'y a pas de mensonge. On voit qui a souscrit les emprunts et à quel moment. C'est factuel,
Oui, mais peut-être qu'il y a... Bon, on ne va pas revenir sur le...
On ne va pas revenir
à l'histoire. Mais je reviens sur ce que vous disiez, madame Amaya Elios. Au tout début, je vous rappelle, le 4 juillet 2020, vous avez dit, nous serons une opposition constructive. Nous vous avons jamais mis des bâtons. C'est vous qui avez critiqué, commencé à critiquer dès le début. Le groupe agirant ça, attention, pas madame Amaya. Le groupe agirant ça, c'est vous qui avez commencé à critiquer. D'ailleurs, ça continue dans les réseaux. Pas vous, mais certains. Sur tous les réseaux. Mais voilà, on n'a jamais voulu vous mettre de côté, c'est vous qui n'avez pas voulu. Et d'ailleurs, je me souviens, si monsieur, l'ancien maire, sans critiquer, loin de là, mais en 2019, avait dit, si je repars, c'est que je suis le seul à faire tomber l'extrême droite. Vous ne pouvez pas dire le contraire, c'est vrai. C'est vrai. C'est tout. Et ce n'était pas l'extrême droite qui est passée. Ah, monsieur Soulavi, c'est monsieur Fougère. Voilà. C'était une équipe qui était ensemble, et après, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sert certainement à rien. Mais quoi, on n'a jamais refusé de travailler avec vous.
On a quand même tenté de faire des conseils, on a voté l'ensemble des délibérations dans notre sens, qui nous a posé très peu de questions, pour autant, on n'a pas eu accès à des commissions de travail. Oh. Alors, vous nous avez dit, quand vous serez constructif, on vous enlevera dans les commissions de travail. La réalité, c'est que vous verrez encore ce soir que la totalité des délibérations vont être votées à l'unanimité. Et pour autant, vous verrez qu'on ne sera toujours pas dans les commissions de travail. Parce que
pourquoi vous n'êtes pas venu discuter avec nous à l'époque, il y a deux ans, mais voilà. Pourquoi vous n'êtes pas venu discuter avec nous?
Vous m'avez dit, quand vous serez constructif, on travaillera ensemble. Oui. Il n'empêche qu'on a cumulé des conseils, et vous avez pu me voir, hein, j'imagine que certains même de mes policiers avaient peut-être la frustration de prendre le micro pour parler, parce que vous avez pris la décision d'être constructif et d'aller dans votre sens, d'autant plus que c'était des conseils pour lesquels on n'avait pas besoin d'un particulier à faire, puisque, comme bien souvent, si vous regardez la grande majorité de vos délibérations, on va dans votre sens, on vote comme vous. Pour autant, on n'a pas aujourd'hui accès à des commissions de travail. Donc ces questions-là, qui sont peut-être un peu dérangeantes, forcément, je vous emmerde à vous les poser ce soir, parce que je n'ai pas l'envie de les poser.
Un dôme, c'est fait pour, hein. Quoi qu'il en soit, un dôme est fou pour faire écouter et que le public sache exactement nos finances. Voilà. Et honnêtement, mais la porte
est... Mais non, essaye d'être constructif. En tout cas, moi, pour ma part, j'essaye de tenir un groupe constructif.
Ok, nous finissons, je clôture ce débat. Merci pour toutes les personnes qui sont intervenues. Quatrième question, rapport définitif de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLEP, de la communauté de communes Rodez-Provence, CCRLP, M. Jean-Marc Berrinos.
Merci. Merci, M. le maire. Donc, en fait, il s'agit de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Lors de la création, enfin, lors du passage en FPU, en fiscalité professionnelle unique, il y a une opération qui se passe, c'est-à-dire que la fiscalité professionnelle que percevaient les communes l'année précédente, le transfert, enfin, le passage, est reversée aux communes concernées. Parce qu'en fait, la Comcom ne s'enrichit pas avec la FPU. Les sommes que percevaient les communes l'année précédente sont reversées. Ensuite, donc, effectivement, ça devient une fiscalité intercommunale, et là, le taux est intercommunal, la communauté de communes bénéficie des augmentations de base prévisionnelle, de taux si elle le souhaite, enfin, je veux dire par là. Après, elle se fait sa propre recette. Mais en tout cas, elle est obligée de reverser aux communes concernées la recette qu'elles avaient auparavant. Ensuite, au fur et à mesure des années de fonctionnement de l'interco, il y a des transferts de charges, puisqu'effectivement, il y a des compétences que les communes transfèrent à l'intercommunalité. Et en fait, c'est ce calcul-là qui est fait. Donc, au fur et à mesure, quand on transfère un service à l'interco, le coût du service, pareil l'année précédente, le coût du service qui est transféré est déduit de l'enveloppe de l'attribution de compensation, c'est-à-dire il nous verse moins, il nous rembourse un petit peu moins de l'enveloppe de fiscalité professionnelle, tout simplement parce que la charge, c'est eux qui l'ont maintenant. Donc, du coup, ils nous déduisent la somme. Ça, c'est juste pour vous expliquer ce que c'est. Là, maintenant, on va passer au détail. Donc, le premier point, c'est la taxe de séjour de la ville de Bolène. Alors, effectivement, on a transféré les charges, mais la ville de Bolène avait refusé de transférer la recette. Parce qu'en fait, on parle d'une commission locale d'évaluation des charges, mais il y a aussi les produits qui sont transférés. Il y a les deux, hein. Il y a les charges et les produits. Là, en l'occurrence, c'est un produit. Donc, à partir du 1er janvier 2022, la taxe de séjour sera intercommunale. Et donc, effectivement, on va augmenter l'attribution de compensation à la ville de Bolène. Puisqu'effectivement, cette somme-là, elle la perçoit plus, c'est la Comcom qui la perçoit. Donc, ce montant-là doit être reversé à la ville de Bolène. Ça sert le contraire, c'est pas une charge, c'est pas un produit. Ensuite, il y a des équipements qui ont été retirés de l'intérêt communautaire. Alors, par exemple, le site de la halle culturelle de Derbourg à Mondragon, l'espace culturel de la gare. Donc, effectivement, pour ces deux équipements, il y a eu un calcul des charges. Je ne vous donne pas le détail, hein, parce que ça n'a pas trop d'importance. Il s'agit d'une dépense de 476,84 €. Donc, les investissements, je vous rappelle, n'ont jamais été évalués. Donc, en fait, on ne transfère que des charges de fonctionnement. Pour Mormas, il y a eu un autre bien en retour, enfin d'autres biens en retour, au 1/4/2021, c'est le stade de foot et les vestiaires, les tennis et les vestiaires, le city stade et les aires de jeu. Donc là, pareil, ils ont fait un petit calcul sur le coût de la charge transférée, et globalement, le montant s'élève à 663,61 €. Pour 2018, pardon. Et si on fait la moyenne sur 2 ans, ils ont fait le calcul pour tous les équipements et ils ont calculé une moyenne, et elle s'élève à 17 372,79 €. Voilà. Donc, ensuite, ça c'était le calcul. Là, c'était un peu compliqué, hein, donc je voulais le simplifier, mais en fait, c'est encore plus compliqué comme ça. Donc, en fait, ils ont abandonné ce calcul-là et finalement, ils ont tout simplement pris la charge transférée de l'année 2018 qui était de 13 000 €. Ils l'ont revalorisé de 2% en 2019, 2% en 2020, 2% en 2021 et on arrive à un montant de 13 605,57 € qui va donc rentrer dans l'attribution de compensation à compter du 1er janvier 2022. Voilà. Ensuite, nous avons Mornas, l'espace Saint-Pierre. Donc là, pareil, le montant de la charge transférée est de 6 361,06 € à compter du 1er janvier 2022. Voilà. Et les demandes d'investissement ne sont pas retenues, mais ça, on l'a déjà dit. Compétence transport mobilité. Donc ça c'est une nouvelle compétence dont le transfert date du 1er juillet 2021. Donc la compétence transport et mobilité s'entend ainsi. Suivi, gestion et coordination des services organisés par chacune des communes à la date du transfert, mise en place d'un système d'information à l'attention des usagers, recherche d'une application coordonnée et de titres de transport unique et unifié. Réflexion, étude de faisabilité, passation de convention. Réflexion, étude de faisabilité, passation de convention. Réflexion, étude de faisabilité, passation de convention pour la gestion des services d'autopartage, de covoiturage et des infrastructures correspondantes. Réflexion, étude de faisabilité pour la gestion des services de mobilité douce comme le vélo et les infrastructures correspondantes. Voilà, donc voilà. Ensuite, bien sûr, toute la coordination des équipements nécessaires aux services de transport. transport de l'Aubin, donc les arrêts de bus, poteaux, etc. Voilà, donc tout ceci a donc été calculé commune par commune, hein, parce qu'il fallait donc prendre les charges que chaque commune avait. Donc pour Bolène, bien sûr, c'est eux qui avaient le plus de charges. Hein. La ville de Bolène organise un service de transport urbain et transport scolaire interurbain dit tube et tube scolaire. Les marchés ont été transférés de plein droit à la CCRLP à compter du 1er juillet 2021. CCAS de la ville de Bolène organise un service d'aide à la mobilité des seniors qui a été transféré au 1er juillet 2021, qui a été donné en gestion CCAS de la ville de Bolène à la même date dans le cadre d'une convention de gestion validée par le conseil communautaire du 1er juin 2021. Donc là, pareil, ils ont calculé les charges sur les trois dernières années. Et ils ont fait un prorata temporis, et on en arrive à, je vais essayer de faire le total, pour Bolène, les charges transférées s'élèvent à 30 063,25 €. Alors, j'ai oublié une somme de l'autre côté, qui est de 362 352,36 €, et ça fait effectivement 392 421,61 € au total. Pour la voie du Rhône, une aire de covoiturage a été labellisée par le conseil départemental. Donc la voie n'a déclaré aucune donnée financière sur le transport et la mobilité en dehors de cette aire de covoiturage. Donc le coût journalier de la balayeuse de la CCRLP a été évalué à 270 €. Le besoin en balayage est évalué à une demi-journée par an, soit 135 € à retenir sur l'attribution de compensation à compter du 1/7/2021. C'est des toutes petites sommes. Pour la palue, c'est à peu près pareil. Hein, pour l'aire de covoiturage qui est pour l'instant non labellisée. Donc on n'a pas déclaré des données financières. Et par contre, il y aura également des frais d'entretien de la balayeuse qui a été évaluée à 270 €, et le besoin en balayage est évalué également à une demi-journée par an, soit 135 € à retenir sur la C. Voilà. Donc ça, c'est des toutes petites sommes. Ensuite, donc Mondragon a déclaré organiser un service d'accompagnement des primaires dans les bus. Donc là, pareil, ils ont fait un petit calcul sur les trois dernières années et ont arrêté une moyenne de charge de 19 824,83 €, donc à retirer sur l'AC. Et les agents d'assurance au service n'étant pas à temps complet sur cette compétence, ils ne sont pas transférés de plein droit. Donc les agents d'assurance au service étant titulaires, les données déclarées pour 2020 au 012 reflètent la charge réellement portée par la commune malgré une exécution partielle du service. Voilà. Donc on a mis la charge au personnel, mais on ne transfère pas le personnel. Voilà. Voilà. Donc là on donne le circuit de ramassage, ça n'a pas trop d'intérêt. Pour Bornas, Bornas a déclaré organiser un service d'accompagnement des primaires dans les bus. Donc là, pareil, ils ont fait une petite évaluation sur les trois dernières années. Et entre les dépenses et les recettes, il nous reste une charge transférée de 6 723,63 €, soit à retenir sur la C au titre de ce service 6 723,63 €. Donc pareil, donc les agents assurant ce service n'étant pas à temps complet sur cette compétence, ils ne sont pas transférés de plein droit. C'est, donc voilà, donc pareil, ils ont mis le 012, ils en ont tenu compte dans les charges, mais ils ne transfèrent pas le personnel. D'accord ? Tout simplement parce qu'ils font qu'une partie, c'est partie de leur temps de travail et pas la totalité. Donc ça ne se justifierait pas de les transférer. Voilà. Donc, en investissement, comme on l'a déjà dit, il n'y a pas de transfert. Oui. Donc, il y a quelques. Quand tu parle de dépenses d'investissement, c'est les ébras, c'est des peintures au sol. Donc là, ils en ont quand même calculé un petit peu. Pour Bolen, bon, ça fait quand même une somme relativement importante. Soit une moyenne de 11 326 euros par an. Et pour Montragon, 1325,47 € par an. Au titre des charges d'investissement, le service de Bolen utilise exclusivement un véhicule du type Kangoo, d'une valeur de 15 519 €. La durée d'utilisation de ce véhicule au titre de ce service est estimée à 7 ans. Donc il est donc proposé de retenir sur l'asset de Bolen 2 217 €. Donc au titre du renouvellement de ce véhicule, et 11 326,09 € au titre des investissements sur un total de 13 543,09 € à compter du 1/7/2021. Donc les équipements de voirie relevant de la CCRLP étant ceux liés au transport urbain uniquement, il est donc proposé de ne rien retenir au titre de l'investissement sur l'asset de Montragon, les travaux sur l'immobilier urbain étant la charge de la région. Voilà, donc charge support, aucune des communes n'a valorisé de charge support comptabilisable. Alors, l'attribution de compensation pour 2022, avec rattrapage des prorata temporis, le cas échéant, parce qu'il y a des choses qui étaient transférées au 1er juillet de l'année, donc c'était un premier de l'année. Donc, les chiffres sont un petit peu compliqués. Donc, je vais juste vous donner les totaux. Donc, le total de l'attribution de compensation 2022 pour Bolen est de 10 149 489,90 €. Pour la Côte-du-Rhône, de 25 000,80 €. Pour la Palue, de 119 525,34 €. Pour Mondragon, de 617 731,65 €. Et pour Bornas, de 188 138,54 €. Pour l'année 2023, donc les chiffres sont un peu différents parce que là, c'est sur l'année complète. Donc pour Bolen, 10 352 472,25 €. Pour la Côte-du-Rhône, 25 068,30 €. Pour la Palue, 119 592,84 €. Pour Mondragon, 627 644,06 €. Et pour Bornas, 178 533,24 €.
Merci, M. Garrigard. Y a-t-il des questions, des observations? Aucune?
C'est un rapport, mais celui-ci, on est obligé de le voter. Donc, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Cinquième question, rapport d'activité 2020 de la communauté de communes Rambouillet-Provence, Mme Anne-Marie Soubeton.
Merci, M. le maire. Avant que le conseil municipal est appelé à prendre acte du rapport d'activité 2020 de la communauté de communes Rambouillet-Provence, je vais vous lire une note de synthèse que nous a transmise la communauté de communes. Le premier fait marquant de 2020, c'est bien sûr le contexte sanitaire, l'arrivée de la pandémie en France, les confinements successifs et les mesures sanitaires, avec bien sûr un impact important pour la collectivité, un impact direct, notamment gestion du personnel, budget des infections et entretien des satellites, et indirect, avec la création de services et aides en direction des entreprises comme des habitants. Pour autant, une satisfaction, celle d'avoir pu mener les investissements prévus initialement, malgré les charges nouvelles induites par la pandémie. C'est bien sûr un gage de dynamisme pour le territoire que ces investissements contribuent à façonner. Et ce, avec d'autant plus de pertinence que les élections, autre fait notable de 2020, ont permis aux 5 communes de se retrouver dans un projet intercommunal commun. Sans rentrer dans le détail des 78 pages de ce rapport, dont vous avez tous pu prendre connaissance, trois points saillants que je vais vous détailler un petit peu plus. Le premier, l'adaptation des services à l'éruption du Covid. Maintien des services indispensables dès le premier jour de confinement, par exemple le portage des repas, la collecte et le traitement des déchets. L'adaptation permanente à l'évolution des protocoles sanitaires, comme la première réouverture de déchetteries en Vaucluse, espace aquatique et médiathèque. plus le développement de nouveaux services adaptés à cette situation inédite, tels que la santé, le centre de dépistage en avril et les vaccinations en octobre, grâce aux liens déjà existants avec les professionnels de santé. L'emploi, les aides financières aux entreprises, abondement au dispositif régional Covid-résistance, création de Covid solidaire et Covid trésorerie, deux dispositifs 100% communauté de communes pour combler les trous dans la raquette, je cite, des aides nationales, hotline d'information et d'orientation, achat de 30 000 masques lavables, annuaire des commerçants ouverts pendant le confinement, plateforme Click and Collect, exonération des deux tiers de la CFE, c'est la contribution foncière des entreprises, par intercommunale, et de la taxe de séjour pour les acteurs touristiques. Accompagnement des habitants, aide à répression des devoirs, création du bloc Rési, opération citoyen solidaire, c'est la plateforme de mise en relation des habitants prêts à aider pour de menus services, la veille solidaire, c'est le maintien du lien téléphonique avec les bénéficiaires du portage de repas isolés. Un coût important, plus de 600 000 euros par an, hors charge de personnel, mais un engagement indispensable. Le deuxième point, le maintien d'une politique d'investissement et de solidarité. La Covid et ses coûts induits auraient pu marquer un coup d'arrêt dans les politiques d'investissement de la collectivité. Cela s'est d'ailleurs vu. Il n'en a rien été grâce à la bonne gestion des années précédentes. Les travaux et dépenses d'investissement maintenus à plus de 6 millions d'euros pour 2020. La mise en œuvre des travaux nécessaires dans les écoles du territoire ou dans les équipements sportifs et culturels d'intérêt communautaire. La poursuite des grands programmes prévus, maison du terroir, zone d'activité de la croisière, centre de valorisation intervalle. C'est la déchirure. Solidarité avec les communes, maintien de la dotation de solidarité communaire à un montant de 700 000 euros et fonds de concours débloqués pour plus de 1 100 000 d'euros pour les communes. Et le troisième point, la modification des équilibres politiques. 2020, des élections municipales et communautaires qui ont permis de dégager une nouvelle majorité où se retrouvent chacune des majorités des 5 communes membres. Une première depuis 2008. Avec la régularisation des attributions de compensation, c'est-à-dire plus de près de 12 millions d'euros sur les 5 communes, bloquées depuis les transferts de compétences de 2018 par l'ancienne municipalité de Bolène, qui refusait de valider les conclusions de la CLECT. Et ensuite, le développement de la mutualisation des services de moyens techniques et les agents.
Madame Souvedo, y a-t-il des questions ou des observations? Aucune. Bien sûr, celui-ci de rapport n'aura pas de vote. Je passe donc à la sixième délibération, débat sur la protection sociale complémentaire à la fonction publique. Monsieur Bouc-Philippe.
Bonsoir. Donc, l'ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire de la fonction publique, prise sur le fondement de l'article 40 de la loi du 6 août 2019, dite loi de transformation de la fonction publique, fixe en matière de prévoyance une participation obligatoire des employeurs publics à hauteur de 20% minimum d'un montant de référence fixé par décret à compter du 1er janvier 2025. En matière de santé, une participation obligatoire des employeurs publics à hauteur d'au moins 50% d'un montant de référence fixé par décret à compter du 1er janvier 2026. Considérant que la commune réalise en matière d'action sociale une participation financière de 10 euros mensuels par agent pour la prévoyance, maintien de salaire depuis le 1er janvier 2013, la prise en charge de la cotisation de chaque agent de la collectivité au CNAS, le Comité National d'Action Sociale, depuis le 1er janvier 1992. Considérant cette obligation s'impose à toutes les collectivités et établissements sous la forme d'une présentation et d'un débat de l'Assemblée délibérante non soumise au vote. Considérant le mail de la préfecture de Vaucluse en date du 25 janvier 2022, rapport l'obligation du débat sur ce sujet. Il est proposé à l'Assemblée délibérante de débattre sur la protection sociale complémentaire et de mettre à l'étude la mise en œuvre des dispositions de l'ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire. Donc, comme ça vous a été dit, le montant pour la prévoyance qui serait fixé, l'ordonnance est parue ou elle doit apparaître, le montant minimum fixé, ce serait 7 euros. Actuellement, la commune verse 10 euros pour le maintien de salaire. Donc, côté prévoyance, on est au-dessus de ce qui sera obligatoire. Donc, la prévoyance, c'est 2025. Oui, au 1er janvier 2025. Contre, sur la santé, aujourd'hui, il n'y a rien de fait. Il faut savoir que la santé, donc la deadline, ce sera le 1er janvier 2026, que le montant de référence fixé est de 30 euros, soit dans tous les cas, à partir du 1er janvier 2026, 15 euros minimum par agent. Ce qui fera à ce moment-là un coût annuel si on est sur les mêmes effectifs qu'aujourd'hui, d'à peu près 5 800 euros. Voilà, je sais pas s'il y a des questions, tout est complètement.
Vous avez déjà échangé avec les agents sur ce sujet-là ou pas du tout?
Non, pas encore. On passe d'abord en conseil et ensuite il y aura une mission de fait avec l'ensemble des agents.
Il n'y a pas d'autres questions.
Merci. Donc, sur la santé, il n'y a rien, mais par le centre de gestion, il y a hygiène et sécurité, etc. C'est le centre de gestion pour le compte des communes.
Par contre, je ne sais pas encore si ça rentre dans... Voilà,
on paye nos cotisations, il faut voir si... Ça ne rentre pas dans ce centre de gestion, s'occupe de la santé au niveau des personnels, notamment au niveau du travail, du droit du travail, etc.
Il y a des questions qui sont encore. Le sujet. On va aussi voir avec l'adjoint aux finances. Et en gros, il y a plusieurs questions. Est-ce qu'on attend la deadline et on prend tout plein foyer? Est-ce qu'on regarde un petit peu ce qu'on peut faire avant? Aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités. Pour garder ça un petit peu plus tranquillement.
Alors, ça, c'est un sujet qu'on devra évoquer, je pense, en communauté de communes, parce que nous sommes une petite commune et on est quand même trois dans l'interco. Et ça pourrait faire l'objet d'un financement communautaire à travers une DSC annuelle. Pour aider les petites communes à financer cette participation pour qu'on ait tous la même. Ça serait bien de négocier avec la COCOM. Comme ça, tous les agents des 5 communes de l'Interco auraient la même participation à la santé et à la prévoyance. Ça, c'est à négocier.
Ça fait également partie des pistes à regarder. Et en effet, si au moins les agents dans la même communauté de communes avaient les mêmes droits, je pense que ce serait intéressant pour eux.
Très bien. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent intervenir? Bien, je vous remercie. Il n'y a pas de vote, bien entendu, sur ce débat. Septième délibération, dénomination de lotissement du frère Marcel, M. Gérard Mignolet.
Oui, merci, M. le maire. Donc, les propriétaires des lotissements et frères Marseille rencontrent des problèmes d'adressage. Donc, pour faciliter le repérage, pour les services de sécurité et de secours, comme le SAMU, les pompiers et les gendarmes, ils ont du mal à localiser les adresses, ainsi que le travail de la poste et les autres services publics ou commerciaux. La localisation aussi sur le GPS identifiait clairement les adresses des maisons et de procéder à leur rénovation. Il y a eu une délibération le 16-12-2019. Le nom de chemin a été utilisé en lieu et place de lotissement et qu'il est nécessaire de faire modifier cette appellation auprès des services des impôts. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de faire modifier cette évaluation. Merci.
Merci, monsieur Médiana-Lévry. C'est juste une rectification de l'explication de monsieur. Donc, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Et il y a une chaîne de délibération, c'est une délégation de la commission en air pour le compte rendu de décision prise du 13 janvier 2022 au 1er mars 2022. Il y a-t-il des questions ?
Diverses ?
Non, ce n'est pas des questions diverses. Très bien. Je clôture la séance avant de vous laisser partir et de passer à signer les papiers qui sont sur la table à côté de monsieur Andorzi. Je vais laisser la parole 3 minutes à madame Sylvie Bonduracy.
Bonsoir, merci monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc nous nous sommes tous donc que. Il était évident que la municipalité allait être réactive et sensible face au conflit en Ukraine. Nous nous sommes donc tous inscrits en tant que lieu de collecte en lien avec l'AMV, c'est-à-dire l'Association des maires du Vaucluse, et la protection civile. Les dons de première nécessité et de matériel médical ont été réceptionnés dans la salle des mariages par les membres du CCAS, des élus, mais aussi des administrés qui sont venus proposer leur aide. Chaque sac a été trié, rangé dans des cartons, étiqueté avec les affiches envoyées par la protection civile. Les besoins sont spécifiques et changent en fonction des demandes de l'ambassade d'Ukraine. Devant l'afflux des dons et des problèmes d'acheminement, nous avons cessé la collecte de matériel. Nous tenons à remercier la Croix-Rouge, entre autres M. Laboulé, le président, et le Secours populaire, Mme Bérard, pour leur aide à acheminer les vêtements. Le matériel médical est toujours stocké dans la salle des mariages en attente du passage du camion envoyé par l'AMV, donc l'Association des maires du Vaucluse. Voilà. Donc nous remercions tous les Lapaluciens pour leur générosité et leur bienveillance. À ce jour, les dons financiers sont préférables via le site du Comité international de la Croix-Rouge et les offres d'hébergement se font directement via la plateforme nationale. Un site numérique a été mis en ligne sur le site de la RS. Voilà. Dans la mesure de nos possibilités, nous restons bien sûr solidaires et à l'écoute des besoins de l'Ukraine. Et encore merci pour eux.
Merci beaucoup. Et je mets là à vous que, bien entendu, la majorité, mais bien sûr l'opposition des deux groupes, parce que sur cette question-là et sur l'Ukraine, il faut rester unis, car c'est un drame qui arrive en Europe. Merci à tous, une très bonne soirée. Merci.